Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 11 juin 1939, le vol de l'indifférent au musée du Louvre. Le dimanche 11 juin 1939, quelques minutes avant 16h, alors que des milliers de visiteurs se trouvent au musée du Louvre, le tableau d'Antoine Watteau, l'indifférent, disparaît de la salle Lacaze où il se trouvait depuis 1869. C'est l'un des plus petits tableaux du peintre, 20 cm sur 25. Il représente le portrait d'un jeune homme debout, les bras ouverts, comme s'il était sur le point d'effectuer une pirouette. Offert au Louvre par le docteur Louis Lacaze, il fait partie d'une importante collection de tableaux de maîtres français des XVIIe et XVIIIe siècles, qui comprend également son pendant, la Finette, portrait du jeune fille en robe flottante, exécuté entre 1710 et 1716. L'indifférent a auparavant appartenu à plusieurs collections, dont celle de la marquise de Pompadour. La disparition est découverte par un guide du musée qui la signale immédiatement à un gardien. Le déclenchement du signal d'alarme entraîne la fermeture de toutes les portes. Les touristes et les amateurs d'art sont fouillés avec soin, mais les investigations sont négatives. Le vol donne aux Français l'occasion de se livrer avec joie à un passe-temps qui leur est cher, se moquer du gouvernement. En raison de diverses confusions bureaucratiques, la police n'est prévenue que par des appels téléphoniques des journalistes. La presse proclame alors que la direction du Louvre est indifférente à l'indifférent. Les failles du système de sécurité sont évidentes. Pendant le déroulement de l'enquête, un journaliste de Paris Match entre au musée accompagné d'un photographe et décroche un autre tableau. La Vierge et l'enfant de Laurent de la Hire. Et le place sous son bras, traverse rapidement le couloir du musée et descend l'escalier. Rencontrant un ami, il s'arrête, lui serre la main, puis poursuit son chemin à la sortie du bâtiment. Il attend devant une porte non gardée, finalement. Il appelle un gardien et lui tend le tableau. Quelques jours plus tard, le rédacteur en chef d'un journal parisien emprunte à un marchand d'art l'une des meilleures copies de l'indifférent. Et la donne à un jeune journaliste qui se dirige vers le Louvre, avec la copie sous le bras. La journaliste demande son chemin à un agent de police dans la cour du musée, à un soldat posté devant l'entrée du ministère de l'Intérieur et à un inspecteur de police devant l'immeuble du quai des Orfèvres. Personne ne lui pose la moindre question. Le tout Paris rit aux éclats. Le 14 août 1939, deux mois après sa disparition, l'indifférent est à nouveau en première page de la presse. Journalistes et photographes sont avertis par téléphone au début de la journée qu'il va se passer quelque chose de sensationnel au Palais de justice de Paris. Le tuyau est bon. Un jeune peintre au visage mince et pâle et au regard rêveur nommé Serge-Claude Bogoulaslavski apparaît à la porte du cabinet du juge d'instruction, entouré de quatre avocats et portant l'indifférent sous le bras. Il a 24 ans, il déclare avoir volé le tableau pour réparer d'outrageantes erreurs de restauration. Il y a un an que je vais au Louvre pour m'imprégner des vieux maîtres. Je suis un admirateur, un disciple de Watteau. Et en contemplant l'indifférent, j'ai constaté avec stupéfaction et colère que sous le prétexte de le restaurer, on l'avait outrageusement défiguré. Une joue, une jambe, le menton ont été salis. J'ai résolu de réparer ces outrages et pour ce faire, il était nécessaire que je puisse travailler à tête reposée. Si j'avais demandé au Louvre de mettre le tableau à ma disposition pour plusieurs heures afin que je puisse le restaurer, on me l'aurait certainement refusé. Il ne me restait qu'une solution, le décrocher du mur et l'emporter dans ma petite chambre où je pouvais lui rendre sa beauté première. Pendant deux semaines, profitant des moments où j'étais seul et avec une patience dont je me sentais pas du tout coupable, j'avais chaque jour tordu un peu le fil de fer qui tenait le tableau de sorte qu'il me fût facile, quand le fil de fer cassa finalement, de décrocher le tableau. Je le mis dans un journal et je sortis sous le nez des gardiens. Jacques Jaujard, sous-directeur du Louvre, examine attentivement le tableau et déclare sans hésitation qu'il s'agit bien de l'original. Il le reporte au musée et Boguslavski est conduit à la prison de la Santé. Le lendemain, devant le tribunal, il répète ses précédentes déclarations, affirmant que son unique mobile est son amour de Watteau et son indignation devant les méthodes utilisées pour la restauration du tableau. Jean-Gabriel Goulina, peintre et critique d'art, rend public un rapport officiel affirmant que l'indifférent a été endommagé par les travaux de son voleur. Le 10 octobre 1939, l'affaire passe en justice. Le procureur de la République affirme que Boguslavski s'est emparé du tableau pour le vendre. Découvrant qu'il était invendable, il aurait inventé cette fable concernant ses opinions artistiques pour éviter d'être condamné quand il restituerait le tableau. Goulina témoigne de la maladresse des retouches. Boguslavski répond que s'il a commis des erreurs, c'est par pure ignorance. Il est condamné à 2 années de prison et à une amende de 300 francs. Le jeune peintre estime la condamnation trop sévère et fait appel. La cour la porte alors à 4 ans de détention. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de rejoindre Emmanuel pour la chronique littéraire Un jour, trois livres. C'est Barbara qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons sans doute son plus grand succès, c'était en 1970, L'Aigle Noir.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi. Dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. On dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant dans mes rêves d'enfant, comme avant. Peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Bonjour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est venu le temps de la chronique littéraire. Un jour, trois livres, présentés par Emmanuel. Nous commençons avec Le procès de Jésus de Jacques Chécroun. C'est publié aux éditions Albin Michel.
Après le procès de Spinoza paru en 2021, voici Le procès de Jésus. Dans la Judée du 1er siècle sous l'occupation romaine, la crucifixion d'un prédicateur venu de Galilée provoque des troubles qui rendent l'empereur furieux. Il ne supporte pas que ses hommes soient accusés d'avoir mis à mort ce rabbi qu'on prétend fils de Dieu, et il ne se satisfait pas des explications de Ponce Pilate. Ce sont les deux pierres angulaires de ce procès qui sont le ciment de ce roman. Jésus, un juif pieux et novateur, crucifié, et Pilate, un Romain très éloigné lors du procès de toute considération religieuse, soldat jusqu'au bout de ses galigae. Les troubles à l'origine des balbutiements du christianisme vont être le catalyseur de la révolution religieuse de Pilate. Il va tant bien que mal essayer de faire connaître la réalité du procès, notamment aux adeptes de Jésus, et en tant que tel devient alors un homme sublimé par Dieu. Quant au pouvoir romain, notamment au temps de Caligula, il s'agira de sortir indemne de cette affaire en s'en lavant les mains, comme Pilate l'a fait lui-même lors de la condamnation de Jésus, et surtout en transférant la responsabilité de ce procès sur le peuple juif.
Le procès de Jésus de Jacques Chécroun s'est publié aux éditions Albin Michel. Nous poursuivons avec Suite algérienne de Didier Porot, toujours chez Albin Michel.
En 1830, transportées par une flotte imposante, les troupes de Charles X débarquent dans la régence d'Alger. C'est le début de la colonisation de l'Algérie. Des frères jumeaux, Bernard et Baudir, venus des bords de la Garonne, décident de suivre sur cette terre conquise aux Ottomans le jeune baron de Vianac pour y tenter avec lui l'aventure. Tandis que l'armée affronte la résistance des populations locales fédérées autour de l'émir Abdelkader, les frères vont procéder à la construction des villes, au défrichement de la plaine de la Mitjéa, et peu à peu, les émigrants venus de France continuent d'affluer. Au fil des décennies, ils côtoient, se mêlent, se lient et s'unissent parfois à ceux, arabes, kabyles, juifs, koulouglis, qui se trouvaient là avant, tout comme à d'autres venus de tous les rivages de la Méditerranée. Voici le début d'une chronique qui va se poursuivre sur plus d'un siècle, au temps des combats initiaux, puis à celui de la paix, mais aussi celui des nombreuses révoltes pour finir sur la guerre d'indépendance. C'est donc le roman de l'Algérie française qui nous est conté ici.
Suite algérienne de Didier Porot, c'est publié aux éditions Albin Michel. Et nous terminons cette chronique, Emmanuel, par La Fontaine de Tréville de Gabriela Adamestaenou. C'est publié aux éditions Gallimard.
Alors, ce n'est pas La Fontaine de Tréville de Rome. Depuis longtemps installée en France, Laetitia rentre régulièrement à Bucarest pour tenter de récupérer un héritage confisqué par le régime communiste. Ses voyages dans son pays natal sont autant d'occasions de replonger dans son passé. Le temps d'une journée en ville, lui reviennent par bribes les souvenirs collectifs et intimes de ses 30 dernières années. Que reste-t-il de l'amour clandestin qui l'a lié à Sorine? Leur séparation l'a d'ailleurs poussée du côté des exilés. Avec la maturité de l'âge, elles sont les différences entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Par son truchement, ce roman est la chronique des 50 ans d'histoire roumaine, de l'époque communiste à la nôtre. L'auteur est un des grands écrivains de la Roumanie d'aujourd'hui.
La Fontaine de Tréville, c'est signé Gabriela Adamestaenou et c'est publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette chronique. Nous allons nous séparer en chanson avec toujours Barbara. Nous écoutons un titre de 1965, Göttingen, et je remercie Lucas qui a réalisé cette émission.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, là. Tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Thank you.